Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Arpentaire, une émission du Zoom Écologie, tous les deuxièmes jeudis du mois, sur Radio Fréquence Paris Pluriel.
Cher public, chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir et bienvenue au Zoom Écologie. Alors pour finir l'année en beauté, on enregistre cette émission en public au Bar à nous, ce super bar associatif du 19e arrondissement de Paris. Pour Mathieu, Louis et moi, c'est la première émission en public, donc on est ravis. Et on a la chance de la faire avec trois militants des soulèvements de la Seine. Bienvenue.
Bonjour.
On enregistre ce soir le troisième épisode d'un cycle qui s'appelle « Mettre les eaux en partage ». Dans le premier épisode, on a vu avec Fabienne Vatteau, une anthropologue, que des pratiques ancestrales de gestion de l'eau continuent d'exister dans des sociétés rurales. Et on a parlé plus précisément du nord-ouest du Portugal. Pour montrer que non, l'entuyautage de l'eau et la monétisation de sa gestion ne vont pas de soi du tout et que d'autres manières de faire existaient il n'y a pas si longtemps et existent toujours dans les interstices. Ensuite, on a reçu Athénaïs Georges du Mouvement européen pour l'eau qui nous a fait un point très complet sur la législation de l'eau au niveau de l'Union européenne aujourd'hui. On a décortiqué ensemble les principales directives liées à l'eau, les contradictions existantes avec d'autres lois et les leviers d'action du Mouvement européen pour l'eau. Et ce soir, on va un peu parler du futur. Et parce qu'au Zoom Écologie, on est convaincu que le futur se dessine dans nos luttes, on a invité Camille et Sarah du collectif Méga Canal Non Merci, Aline de la Basse et Vivante et Océan de Stop Green Dock. Donc vous l'avez compris, le point commun de nos invités, c'est qu'ils et elles luttent pour et autour de la Seine. Alors je vais faire un rapide portrait de la Seine. C'est un fleuve qui prend sa source au sud-est de Paris, en Haute-Marne, et qui traverse la France en diagonale, comme ça, en passant par Troyes, Fontainebleau, Paris, Mantes-la-Jolie, Rouen. La Seine se jette dans la Manche au Havre. Et c'est important parce que le Havre, c'est un grand port industriel et commercial, et la Seine relie ce port directement à la capitale, mais aussi à des importantes structures industrielles. Au XIXe siècle, les grands méandres de ce fleuve ont été en partie canalisés entre Rouen et Paris, et on a installé le plus grand port fluvial français autour de Paris, entre Limay et Gennevilliers. Et Gennevilliers, c'est une ville qui se situe au nord de Paris, une ville dont on va pas mal entendre parler avec toi, Océan, ce soir, parce qu'on veut construire un machin encore plus gros à Gennevilliers, une zone logistique qui s'appelle Green Dock. Et on veut bien sûr aussi construire un nouveau canal autour de ce fleuve, parce qu'il est déjà doublé par des canaux en plusieurs endroits, mais celui-là, il s'appelle le canal Seine Nord Europe, il devrait être encore plus gros que tous les autres, il ferait 107 km de long et il relierait Paris à Anvers. Camille et Sarah, vous nous en parlerez plus précisément. Et bon, heureusement, la Seine n'est pas entièrement artificialisée par l'inflation des flux logistiques et des marchandises. Il existe encore des lieux, comme la Bassée, qui sont d'immenses zones humides qui accueillent énormément de biodiversité, qui sont des puits de carbone phénoménaux, etc. Impossible que la Bassée soit attaquée. Pas vrai, Aline ?
Eh bien, si.
Sans blague. Alors, c'est pour ça que tu es là ce soir. Tu es du collectif La Bassée Vivante. Qu'est-ce que c'est que La Bassée Vivante ? Contre quel projet elle lutte ?
Alors, elle lutte pour la Bassée, pour qu'elle reste vivante. Et la Bassée, qu'est-ce que c'est ? En fait, en général, personne ne sait ce que c'est que la Bassée, alors que c'est un lieu qui est hyper important. C'est la plus grande zone humide d'Île-de-France, et elle se situe à 100 km de Paris, au sud-est de Paris. Et plus précisément, elle est à la confluence, entre la confluence Seine-Yonne et la confluence Seine-Aube. Et c'est un endroit qui est vraiment magnifique. Là, la Seine, elle est relativement étroite, elle n'a pas encore été élargie. Les berges sont complètement naturelles, c'est magnifique de se promener le long. Et elles méandrent encore beaucoup. Donc on a plein de circonvolutions de cette petite Seine. C'est une zone humide parce que c'est un endroit qui est très plat. Et donc quand la Seine est un peu grosse, elle déborde. Et aussi parce qu'il y a des nappes phréatiques vraiment qui affleurent. Et donc dès qu'il pleut beaucoup, ou que la Seine aussi est très chargée, ça vient remplir les nappes phréatiques qui vont déborder autour de la Seine. Donc c'est un lieu qui est vraiment particulier et extrêmement utile parce que les zones humides sont des milieux qui sont fondamentaux dans le monde entier et qui sont très en danger. Alors pourquoi cette zone humide elle est autant en danger ? Parce qu'aujourd'hui il y a des petites péniches qui passent, 650 tonnes. Et elles peuvent circuler parfaitement dans cette partie-là de la Seine. Mais VNF, qui est Voies Navigables de France, qui est l'opérateur public de gestion de toutes les voies navigables en France, voudrait faire passer des péniches 4 fois plus grosses, 2500 tonnes. Ce sont des monstres. Et ces péniches, pour qu'elles puissent passer, en fait, il faut élargir la Seine, parce que sinon, elle racle les bords. Il faut la creuser, la Seine, parce que sinon, elle bloque. Et il faut couper les méandres, donc rectifier la Seine, parce que sinon, elles ne peuvent pas tourner, en fait, elles peuvent pas prendre les tournants. Donc, l'idée, ce serait entre Bray et Nogent, donc Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine, 30 km, d'aller faire cette mise à grand gabarit, pour faire passer des péniches à plus grand gabarit.
Parce qu'à d'autres endroits de la Seine, ces péniches, elles passent déjà, c'est ça? Il y a déjà eu des mises en gabarit plus en...
Exactement. Ces grosses péniches de 2500 tonnes, elles arrivent jusqu'à Bray. Et ensuite, à partir de Bray, c'est là où la Seine est plus, est plus sauvage et plus naturelle. Et donc, c'est ces 30 km-là qu'on voudrait défoncer, finalement, pour des très grosses péniches. Nous, on s'y oppose, en fait, pour plein de raisons. Déjà, pour des raisons de biodiversité. Le fait que la Seine, elle déborde et que les nappes phréatiques remontent de manière intermittente, en fait, ça crée un milieu qui est extrêmement riche. On a des forêts alluviales, on a des prés inondés, on a des mares intermittentes. Bon, en fait, c'est vraiment magnifique. Tout le monde a un peu les pieds dans l'eau de temps en temps. Et ça fait vivre tout un vivant très particulier qui aime avoir les pieds dans l'eau, les racines dans l'eau régulièrement, mais pas tout le temps. Donc on a, que ce soit des insectes, des oiseaux, des mammifères, des plantes, c'est un milieu qui est extrêmement riche, on parle presque d'une cathédrale de biodiversité. Et ça, bien sûr, si on rectifie la Seine, l'eau va passer plus vite, elle va moins déborder, elle va inonder moins loin, du coup tout ça va s'assécher. Et à l'inverse, quand il va beaucoup pleuvoir, cette zone humide va faire moins effet de tampon, donc il va y avoir des inondations plus fortes. Et tout ce vivant n'aime pas du tout ces dérèglements. Donc ça pourrait vraiment détruire tout ce milieu qui est très riche. L'autre chose qui nous embête vraiment, c'est que rectifier la Seine, ça fait des autoroutes à eau et des autoroutes à cru. Paris et tout l'aval de la Bassée, c'est très densifié, artificialisé ces dernières décennies, voire siècles. Et du coup, le risque d'une crue centrale est assez fort, avec des impacts potentiellement extrêmement élevés. Aujourd'hui, la Bassée, elle joue ce rôle de tampon. Et donc, quand l'eau grossit, elle s'étend, elle se dilue, elle se diffuse dans la Bassée et ça ralentit l'onde de crue. Si on fait une autoroute à eau, l'onde de crue, elle va filer sur l'aval, sur Paris et encore après. Donc, ça nous paraît, dans un contexte de changement climatique, ça nous paraît quand même hyper, hyper important de garder ce tampon à crue.
Surtout qu'on a plein d'exemples de partout de crues et d'inondations désastreuses à cause de notamment ces... mise en autoroute, comme tu dis.
Exactement. Deux derniers points, et je vais faire rapide. Il y a aussi un risque sur la qualité de l'eau. En fait, quand l'eau va lentement, quand elle s'infiltre dans les nappes, quand elle s'infiltre sur les côtés, elle est filtrée, justement. Et c'est une zone en amont qui est extrêmement agricole, avec énormément d'intrants, de pesticides, de fertilisants. Donc, en fait, si on veut boire de l'eau saine, c'est bien qu'elle soit filtrée. Et c'est de l'eau qui, évidemment, sert pour les gens de Seine-et-Marne, donc autour de la Bassée, mais ce sont aussi des puits de captage importants pour Paris. Donc ça concerne vraiment tout le monde. Et le dernier point, c'est, mais bon sang, pourquoi veut-on faire cette mise à grand gabarit? Eh bien, le Commissariat Général pour l'Investissement, qui est une entité très sérieuse rattachée au Premier ministre à Matignon, a appelé toutes les entreprises du coin en disant, mais est-ce que vous avez vraiment besoin de cette mise à grand gabarit? Et toutes les entreprises ont répondu, peu ou prou, pas vraiment, sauf une, Soufflet, qui est une énorme coopérative agro-industrielle qui fait plus d'un milliard de chiffre d'affaires par an et dont le principal métier est de vendre de l'orge maltais, donc des céréales, à l'international, donc au Brésil, en Chine, aux États-Unis, pour faire de la bière. Et il se trouve que le siège de Soufflet est à Nogent-sur-Seine, cet endroit jusqu'où irait la mise à grand gabarit. Et donc, en fait, la vraie raison de cette canalisation de la Seine, c'est permettre à Soufflet de charger des plus grosses péniches, donc de réduire son coût logistique, et de pouvoir stocker plus longtemps ses céréales pour les vendre au moment où le prix des céréales est plus favorable. Donc, tant que le marché n'est pas très favorable, je stocke, et quand il est favorable, j'ai des grosses péniches pour pouvoir décharger beaucoup de céréales.
Alors, la Bassée Vivante, c'est un collectif jeune par rapport à un projet qui, lui, est ancien. Comment tu peux nous raconter comment vous êtes organisé en collectif ?
Ben en fait, c'est assez récent. On s'est retrouvés avec une petite dizaine, on n'est vraiment pas très nombreux. On habite un peu partout dans le sud de la Seine-et-Marne, en Bassée, mais pas que. Aussi un peu dans le bassin versant de la Bassée, quelque part. Et on s'est tous retrouvés parce que ce projet de chantier, ça fait 40 ans qu'il dure. Et régulièrement, il y a un peu des pics de mobilisation citoyenne pour dire « non, mais ça ne va pas ». Et le projet retombe. Et là, on s'était dit « bon, bah, ça serait bien de faire revivre une mobilisation parce qu'il y a une déclaration d'utilité publique qui a été passée en 2022. Donc là, ça commence à urger. Et donc, on s'est dit, là, notre petit nombre, là, bah, on aimerait bien relancer ça.
Et donc, comment est-ce que vous agissez avec votre collectif ?
Je dirais qu'on agit de deux manières. Donc, on essaye de revivifier cette lutte, déjà en la faisant reconnaître localement, parce que les gens, en fait, leurs grands-pères leur ont parlé, leur mère leur en parlait, bon, finalement c'est devenu un peu dans l'inconscient collectif, ça se fera un jour, mais pas forcément. Donc on veut remobiliser vraiment sur place. On veut aussi en faire un sujet plus largement, parce que, en fait, une zone humide de cette ampleur-là, ça concerne l'échelle nationale, quelque part. Et puis on voudrait, on est en train de travailler à construire un collectif beaucoup plus large, avec des associations naturalistes, des syndicats de travailleurs, la fédération de pêche, pour essayer de mobiliser tous les acteurs qui, de près ou de loin, sont concernés par la bassée. Donc ça, c'est le travail très concret de faire monter une lutte. Et puis, il y a un deuxième travail qui est, je pense, aussi important, c'est d'apprendre à faire collectif. Je pense que c'est quelque chose qui est très politique, en fait, d'apprendre à travailler ensemble, d'apprendre à le faire de manière très horizontale, bienveillante, vraiment en prenant soin de nous. Et ça, c'est un travail au moins aussi important.
Merci Céline. Et on va continuer un peu sur la scène et ces quelques méandres qui restent. Et on va arriver à Gennevilliers, on va arriver à Green Dock. Qu'est-ce que c'est de Stop Green Dock Océan ?
Alors du coup, Stop Green Dock, c'est une lutte qui s'est créé il y a un an et demi et qui lutte contre un projet qui s'appelle Green Dock, qui est un méga entrepôt XXL, du coup, qui s'y voit le jour, ferait 600 mètres de long, 35 mètres de haut et 60 mètres de large. Donc, c'est vraiment un méga entrepôt. Donc ce projet, il est porté par un promoteur immobilier qui s'appelle Goodman. Et en gros, l'idée du projet, c'est vraiment un entrepôt de base qui est vendu par le promoteur comme quelque chose fait pour le fluvial. Mais dans les faits, quand on regarde notamment le dernier rapport de l'autorité environnementale, on voit que c'est vraiment 7,5% du trafic généré autour de l'entrepôt qui sera fluvial. Donc c'est vraiment fait par la route.
Et le reste, oui, c'est des camions.
Exactement. La majorité de la réception, enfin des marchandises, sera fait par camion, donc c'est vraiment du full camion. Si on veut un peu situer où se trouve exactement Green Dock, donc Green Dock, c'est à l'extrémité est du port de Gennevilliers. Donc le port de Gennevilliers, donc c'est fait de plusieurs darses. Donc ce qu'on appelle des darses, c'est des entrées d'eau à l'intérieur des ports. Donc c'est là où sont disposés en temps normal les entrepôts. Et en fait, l'entrepôt Green Dock, il n'a pas été positionné sur une de ces darses. Donc déjà, là, c'est un peu incompréhensible. Et il est envisagé proche des berges de Seine. Et donc là, déjà, on peut le critiquer. Et ensuite, ce qu'il faut dire, bon, j'en parlerai plus tard quand je parlerai de l'impact, notamment sur la biodiversité de ce projet-là, c'est que ce projet, en fait, Green Dock, ce site, il est face à l'île Saint-Denis. L'île Saint-Denis, notamment son extrémité ouest, c'est deux choses à la fois, une zone Natura 2000, et une ZNIEF, donc zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique.
Bravo.
Et en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des herbiers aquatiques, il y a des grands cormorans, des martins pêcheurs, qui sont en fait sur une zone qui correspond à l'un des plus grands dortoirs de la région Île-de-France. Donc c'est vraiment rempli de biodiversité. Donc ça, c'était plus pour la partie située. Et donc on pourrait se demander, en fait, à quoi va servir l'entrepôt ? Quelle logistique on va y faire ? Et ça, on sait bien y répondre. Pourquoi ? Parce que Goodman, déjà, quand il définit ce projet, il parle d'une création de 700 emplois. Donc déjà, pour s'en rendre compte, le port de Gennevilliers en lui-même, c'est 8000 emplois. Donc ce sera à peu près 10%. Okay ? Dans ces 700 emplois, le promoteur Goodman, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit 60% d'emplois exécutifs, 40% administratifs. Bon, dans les faits, on sait que ça ne respecte pas du tout en fait, les quotas habituels des entrepôts logistiques. Donc c'est un peu n'importe quoi.
C'est quoi les quotas habituels, si je peux dire ? C'est beaucoup moins d'administratifs, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. C'est beaucoup plus en fait d'ouvriers, de la logistique. En fait, là, je vais en venir après. En fait, c'est le deuxième argument, c'est que en fait, l'entrepôt logistique de Green Dock, ça a été pensé pour la sous-traitance. L'endroit va être divisé en quatre zones. Ces quatre zones, trois vont être dédiées à trois multinationales. Donc, il y a DB Schenker, Steff et Seva Logistics. Donc, c'est vraiment des spécialistes de la sous-traitance. ça n'a pas été pensé pour les ouvriers locaux, pour les travailleurs locaux. Et donc, c'est quoi le projet? En fait, le projet, c'est la massification des flux. Et on la retrouve en fait dans les différents projets. Massification des flux logistiques, donc ça sera des colis. Pourquoi en fait? Bah, en fait, parce que les multinationales, elles utilisent ces méga entrepôts pour faire venir des colis qui viennent de très loin, les stocker ici, mais très peu de temps, des fois 24 heures, pour les renvoyer très loin. Et pourquoi les multinationales font ça? Elles font ça en fait parce que ça permet de baisser les coûts. Ça baisse les coûts parce que ça profite de l'espace gigantesque de l'entrepôt, du fait que les ouvriers sont sous-payés, qu'on ne respecte pas les normes environnementales, et c'est le cas notamment sur les berges de Seine, qu'on ne respecte pas aussi les normes de santé pour les travailleurs. Donc ça, c'est un peu le projet de fond. Et ce qui est intéressant aussi de noter sur GreenDoc, c'est que qui dit sous-traitance, en fait, dit pas d'emploi local, concrètement. Ce qu'on voit en fait déjà sur le port de Gennevilliers, j'ai parlé de 8000 emplois, c'est que en fait, dans ces 8000 emplois, on a très peu de gens qui habitent près du port de Gennevilliers. C'est vraiment la sous-traitance et du coup, ça n'emploie pas du tout les gens de la Seine-Saint-Denis, en fait, du 93. Et ça aussi, je voulais vraiment mettre le doigt dessus parce que c'est souvent porté par Goodman comme un projet green et doc. C'est pas du tout doc, en fait. Et on peut aussi faire le lien avec ce qui est fait dans le Paris. Dans Paris, on ne va pas foutre des entrepôts gigantesques comme ça avec XXL. On va mettre des plages, du sable pour que la bourgeoisie elle, se fasse plaisir. À l'inverse, dans les banlieues, qui sont déjà pollués, on va mettre ces entrepôts-là. Et donc, en fait, je pense qu'on peut, je ne suis pas sociologue, mais on peut parler de racisme environnemental un petit peu. Voilà. Et je parlerai plus tard des impacts sur la biodiversité.
Ça marche, merci. Et donc, Stop Green Dock, comment s'est montée cette lutte?
Alors, Stop Green Dock, de base, c'est des riverains. Pour la petite histoire, donc moi je ne savais pas, je suis assez jeune dans la lutte, mais on m'a raconté que ça a pas été, c'est pas les élus qui ont parlé de ce projet, c'est un riverain. C'est un riverain en fait qui sortait en kayak sur les berges de Seine et il a vu le panneau Green Dock et en fait c'est comme ça que ça s'est créé. Donc c'est des associations, c'est le tissu associatif de l'île Saint-Denis et d'Épinay-sur-Seine qui sont réunis et qui ont créé Stop Green Dock. Et donc de base c'était vraiment des manières d'agir classiques, on va dire, du réseau associatif, c'est-à-dire. Médiation de la cause, contre-expertise, mobilisation des élus, et donc ça c'est Stop Green Dock. Et ensuite le collectif Pleine Tempête, il a été créé par des riverains qui, à l'approche de la dissolution des soulèvements de la terre, dès l'annonce de la dissolution des soulèvements de la terre, il y a eu en fait cette dynamique de création de comités locaux partout en France, et donc c'est là qu'un, notamment une riveraine de l'île Saint-Denis a dit bah, ce serait bien de créer en fait un comité qui considère cette lutte contre Green Dock vraiment essentielle. Et du coup tout le comité s'est structuré autour de ça, et il y a une mobilisation l'année dernière, j'en parlerai plus tard, il y a un an, un acte national des soulèvements de la terre.
Ouais. Bah, tu peux nous en parler peut-être, des moyens d'action ouais. De Stop Green Dock.
Oui, bah, il y en a plusieurs. Moi je pense qu'il y en a quatre, enfin, c'est en fait comme dans toutes les luttes, il y a un peu un travail sur le fond premièrement qui va être plaidoyer, un peu lobbying en vrai auprès des riverains, des élus, pour en fait les rallier à la cause. Donc par exemple, nous ce qu'on va faire en temps normal, c'est participer à la rédaction de lettres pour les élus qui sont pour le projet. Donc c'est arrivé avec des maires, c'est comme ça qu'on les a ralliés à la cause. Et pour rallier les citoyens à la cause, bah déjà il faut qu'ils connaissent le projet. En fait, personne n'a connu le projet. Le riverain qui l'a découvert, il l'a découvert en faisant du kayak. Donc ça montre bien à quel point c'est caché, ils s'en foutent de la vie des riverains. Et donc ça c'est vraiment la partie sensibilisation. La deuxième partie, moi c'est ce que j'aime beaucoup au sein du comité Pleine Tempête, c'est le travail sur les alliances. Donc ce que j'aime bien avec Pleine Tempête, c'est que c'est vraiment un comité qui est inscrit dans son territoire. C'est-à-dire qu'on a des alliances avec les riverains, avec Stop Green Dock, on a des alliances avec les travailleurs, notamment de Géodis. Il faut savoir que ça fait plus de 10 ans qu'on a certains militants écolos du comité qui participent en fait aux mouvements syndicaux portés par la section syndicale du 93. Et à l'inverse, la dernière par exemple, bah les ouvriers ils sont venus à la mobilisation contre Green Dock, ils participent au contre-projet. Donc ça pour moi c'est essentiel, c'est les alliances, c'est un travail de fond. Ensuite, on va avoir une partie plus, aussi un travail de fond, mais tout ce qui est expertise environnementale, le travail de la note de la MRAE, la construction du contre-projet, où là, c'est plus la mise en place de l'intelligence collective pour en fait prouver que le projet il détruit la biodiversité et aussi qu'il existe une autre voie. Et la dernière manière, bah, c'est la mobilisation. Donc, il y a la mobilisation de masse. Donc, l'année dernière, comme je l'ai dit, il y a un acte national des soulèvements de la Terre. Donc, le 24-25 mai, il y a eu à peu près 2000 personnes qui sont réunies à banlieue nord. Et l'idée, c'était de vraiment faire connaître la lutte déjà au sein de l'île Saint-Denis, Gennevilliers et Saint-Denis, et vraiment de rallier le plus de personnes à la cause. Et c'était une victoire, parce que du coup, les mouvements syndicats, les riverains, les assos écolos, même certains élus, bah, tous sont positionnés contre, mis à part le maire de Gennevilliers qui est toujours pour.
Oui, c'est le seul.
C'est le seul, ouais. Oui. C'est le seul, avec Aropa aussi, Aropa Port, l'entreprise qui pousse vraiment pour... pour Green Dock. Et oui, et du coup, il y a eu une manifestation. Donc l'idée, c'était de, voilà, de mettre en place du surgissement sur le port de Gennevilliers. Bon, ça, ça n'a pas trop bien marché. Il y a eu quand même beaucoup de répression. 70 militants qui sont fait arrêter. Bon, il n'y a eu pas de suite, hein, parce qu'en fait, ils n'ont rien fait de mal sur le moment présent. Par contre, on fait aussi des actions plus naturalistes, souvent. Par exemple, l'année dernière, le dimanche, on avait organisé une espèce de combat entre des kayaks qui représentaient toutes les luttes face à l'Empire logistique. Et donc ça avait bien plu. On avait aussi récupéré du sable sur les sablières de BTP qu'on avait réintroduit dans la Seine, sur les berges notamment. Parce que le sable aujourd'hui, il est plus présent sur les bords de Seine et c'est essentiel pour la reproduction, la chasse et pour le repos des oiseaux, en fait, leur développement, leur vie. Ils ont en fait remis du sable sur la Seine, et voilà. Et il y a eu la balade naturaliste du 1er juin, mais j'en parlerai peut-être après.
Oui, parce que tout ça, c'est un travail sur les imaginaires qui est hyper important.
Exactement.
Et qu'on abordera en deuxième partie de l'émission.
On continue notre descente de la Seine, puisqu'on va vers la mer, et on s'arrête à Compiègne et les alentours, puisque là, il y a un collectif qui s'appelle Méga Canal Non Merci. Qu'est-ce que c'est, Méga Canal Non Merci?
Alors, c'est un collectif qui lutte contre le projet de Canal Seine-Nord Europe. Donc, comme tu l'as mentionné dans ton introduction, le projet, il vise à connecter le bassin parisien, donc un des plus grands bassins de consommation d'Europe, avec les ports du Nord, Anvers et Rotterdam. Donc, il faut le faire par la voie fluviale parce qu'aujourd'hui, il y a déjà une liaison fluviale. On peut déjà prendre sa petite péniche, partir de Paris et arriver à Anvers comme ça. Simplement, encore une fois, comme pour la Bassée, c'est une question de gabarit. On peut le faire à un gabarit qui est jugé trop restreint par les défenseurs de ce projet de méga-canal. Et donc, on veut faire passer des péniches, cette fois-ci, de 4400 tonnes. Et le but, c'est de faire passer des énormes péniches pour développer le transport fluvial entre Paris et Anvers. Mais en gros, si on veut expliquer le projet du canal Seine-Nord Europe, c'est simplement un maillon de cette grande liaison. En gros, le canal Seine-Nord Europe, il se déploie entre Compiègne, donc petite ville sur les bords de l'Oise, et Aubonche-Laubac, encore plus petite ville, juste à côté de Cambrai. Donc c'est un canal qui fait 107 km de long. Et 107 km de long, c'est quand même assez grand. C'est un des plus grands chantiers jamais réalisés en France. Si on veut comparer un peu en termes de ce qu'on connaît un peu aujourd'hui, la 69, c'était à peu près 400 hectares qui allaient être accaparés par le projet. Le canal Seine-Nord Europe, c'est plus de 3000. En termes de déblais, donc les déblais, c'est l'ensemble de la terre, du sable, du granulat qu'on va devoir extraire pour creuser ce canal-là, on est sur l'équivalent de 10 fois le tunnel sous la Manche, en termes de volume. Et ce n'est pas qu'un canal, ce n'est pas simplement un petit trou de 107 km de long, 54 mètres de large, c'est aussi un ensemble très complexe de routes pour acheminer les marchandises sur le canal, de plateformes multimodales. Donc les plateformes multimodales, c'est des sortes de grands ports, et en gros l'idée c'est de faire des ports fluviaux pour pouvoir décharger la marchandise et alimenter tout le réseau. Mais c'est aussi en fait une bassine, une méga bassine, parce que dans le nord on a aussi des problèmes d'eau, et on n'est pas sûr que ce grand canal, donc 54 mètres de large, 107 km de long, on ait suffisamment d'eau pour l'alimenter. Et donc on a besoin d'une bassine, d'une grande retenue d'eau qui va faire 42 mètres de haut pour 600 mètres de côté, donc c'est à peu près 22 fois la bassine de Sainte-Soline en termes de volume. Elle a besoin d'être remplie pour pouvoir en fait assurer le fait qu'il y ait de l'eau et le même niveau d'eau, parce que encore une fois c'est une question de gabarit. S'il y a 1 mètre ou 2 mètres de tirant d'eau de moins à l'été, les péniches elles passent plus. Donc on veut toujours un niveau constant d'eau, et donc on a besoin de cette méga bassine là. Et donc c'est aussi un problème sur la question de l'eau. Et évidemment on se doute que quand on détruit 3000 hectares, on détruit aussi 300 espèces protégées directement, parce qu'on touche à des milieux de vie. Et ça, c'est un des nombreux aspects qui font de ce projet un des plus grands jamais réalisés en France. Ça va coûter au minimum 10 milliards d'euros d'argent public. Et donc, le collectif Méga Canal Non Merci, il a vocation à dire non à ce type de projet qui, évidemment, pose des questions centrales sur la manière dont on voit la vie en société dans les années à venir, parce qu'on ne fait pas simplement un canal pour acheminer des marchandises de manière prétendument écologique. Le but, il y en a deux principaux, c'est de continuer l'exportation massive de céréales à l'étranger. Quand vous allez dans le nord, une péniche sur trois que vous voyez dans les canaux, elle est destinée à exporter de la céréale agricole au Maroc ou en Chine. Parce qu'en fait, en gros, on est sur des grandes terres agricoles en Picardie qui vont exporter leurs céréales soit par le port de Rouen, soit par le port de Dunkerque, et ces céréales-là, elles vont s'écouler dans le monde entier. mais ce n'est pas du tout pour la population locale. Et on sait très bien que la population des Hauts-de-France est assez précaire. Et également, l'autre intérêt de faire une route, une autoroute fluviale entre Paris et Anvers, via la liaison entre Compiègne et Cambrai, c'est en fait de ne plus avoir à passer par le Havre. Parce qu'aujourd'hui, le moyen d'accéder à Paris par la voie fluviale, c'est de passer par le Havre. Et on sait aujourd'hui que le Havre, c'est un port qui est très très mal vu par les différents armateurs et par les différentes entreprises. Parce que c'est un port où il y a un syndicalisme très fort, où on peut avoir des collectifs de travailleurs qui peuvent exiger et obtenir des avancées pour leurs conditions de travail parce qu'ils sont organisés. Et aujourd'hui, la capacité de blocage des syndicalistes et des dockers du port du Havre gêne le grand capital. Et donc faire une autoroute entre Anvers et Paris en évitant de passer par le Havre, ça fait beaucoup d'intérêt. Donc voilà un peu un des nombreux, et on parlera ensuite les zones logistiques, les agriculteurs qui font des bassines sur les déblais, enfin bref, il y a beaucoup d'acteurs qui se jouent dans ce projet, mais voilà, le collectif Inca Non Merci a pour vocation de lutter contre ce projet-là.
Et comment il s'est créé ce collectif ?
Alors ce collectif, il s'est créé il y a 3-4 ans maintenant. Bon, au début, c'était quelques riverains qui avaient à peine entendu parler du projet, mais en fait, il faut savoir que ce projet, il a une cinquantaine d'années. Enfin, c'est un truc qui existe depuis très très longtemps, et pour le coup, dont on en entend parler jusqu'à il y a justement 3 ans, 2 ans, même, on n'en entendait pas du tout parler. Ou alors, il était dans les papiers, mais on l'avait jamais vu venir. Enfin, il a été modulé plein de fois, donc on pensait qu'il allait jamais se faire, etc. Et donc, plus récemment, il y a à peu près 2 ans, ça a pris un peu plus d'ampleur. Il y a des riverains qui en ont plus parlé, qui se sont appropriés le thème et qui ont décidé de créer ce collectif Méga Canal Non Merci, qui a été plus largement rejoint. Et puis dans la foulée, il y a également un comité des soulèvements qui a pris aussi le sujet et qui aujourd'hui se penche beaucoup là-dessus. Et notamment avec plein de gens, en fait, ce qui est très compliqué, c'est que ce projet, il fait 107 km de long. Et donc, bien sûr, on parle de Compiègne parce que c'est un peu la plus grande ville qu'il y a sur le tracé. Mais en fait, il y a plein de gens tout le long. Et il y a les gens qui sont au nord, ils sont à 100 km de nous. Donc, c'est vachement compliqué d'avoir un seul collectif. Donc, maintenant, il y a même des collectifs de Lille maintenant, qui prennent part.
Oui, j'allais demander, il y a d'autres, surtout le long du tracé, même au nord, il y a des gens qui...
Voilà, donc même au nord, il y a des gens qui prennent. Et puis... aussi entre Compiègne et Aubagne-Chelebac, près de Cambrai, c'est un peu désert, quoi. Il y a très peu de villes, très peu de villages. Donc il y a des gens qui arrivent à se manifester, mais ils sont un peu seuls. Donc il y a tout aussi quelque chose à faire autour de se réunir et même créer une culture militante, parce qu'aussi les Hauts-de-France, c'est pas du tout un territoire militant. C'est un territoire qui est vachement dominé par la droite et l'extrême droite. C'est aussi pas facile de lutter à ces endroits, mais c'est aussi d'autant plus intéressant. Et notamment au sujet des alliances dont parlait Green Doc, nous on en est, je pense, au moins abouti qu'aujourd'hui, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire à ce sujet-là et qui sont en cours et qui prennent du temps.
Donc ça, j'ai l'impression que c'est commun à tout le monde, cette mise en réseau de collectifs, c'est vraiment un travail très très important. C'est quoi les autres manières de militer au sein de Méga Canal Non Merci ?
Donc nous, comme j'ai dit, c'était un projet qui n'était pas du tout connu de la population locale. La première chose à faire, forcément, c'est d'en parler. Donc là encore, dans les semaines à venir, on a encore plein de réunions publiques. On en a fait déjà plein, mais on n'arrête pas de faire des réunions publiques pour informer, pour faire parler de ce sujet, pour mettre le débat. Et ça, rien que ça, ça gêne déjà. On a des pressions sur des bars qui nous accueillent pour faire des réunions publiques et qui, du coup, ferment d'un coup et qui ne veulent pas faire la réunion publique. Donc même juste mettre le sujet sur la table et donner des informations, ça gêne déjà la société du Canal Seine Europe qui porte le projet. Et puis après, il y a énormément, comme c'est un projet très complexe, qui englobe énormément de choses, qui a beaucoup d'histoires aussi. Il y a un projet d'expertise, de recherche à faire sur qu'est-ce qui se fait, comment, quoi, et de contre-arguments et de récits aussi, qui est hyper long et très complexe. Il y a aussi un recours juridique qui est en cours, qui a été déposé en décembre dernier, contre l'autorisation environnementale qui a été accordée au projet. Et puis, bien sûr, des manifestations, des rassemblements. On en a fait récemment la fête de l'eau à Compiègne, mi-mai.
Merci beaucoup. Il y a plein de points communs dans vous. Bon, bien sûr, il y a la Seine, c'est évident. Il y a cette lutte contre la logistique, l'intensification des flux, le fait que les bateaux deviennent de plus en plus gros. Et vos collectifs, ils créent du collectif, justement, ils créent de la mise en réseau. Et ça crée des imaginaires alternatifs dont on va parler après la pause musicale.
Al creador doy gracias.
Vous êtes sur Radio Fréquence Paris Pluriel. Vous écoutez le Zoom Écologie. On a invité ce soir des membres de Stop Green Doc, de La Bassée Vivante et de Méga Canal Non Merci à nous parler de leur lutte. Ces trois luttes, elles se sont fédérées, on peut dire, sous la bannière de quelque chose qui s'appelle les soulèvements de la Seine. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que c'est que les soulèvements de la Seine?
Oui, je peux en parler un petit peu. Donc les soulèvements de la Seine, en fait, je pense que c'est on peut parler d'une coalition
de ces différentes luttes, en fait, qui, comme vous l'avez entendu précédemment, sont autour de la Seine, donc c'est-à-dire de contre l'accaparement de l'eau, mais aussi l'accaparement des terres, en lien en fait à la massification des flux de l'empire logistique. Donc quand on raconte un peu ce qui se passe dans le bassin versant de la Seine, parce que c'est ça l'idée sous le monde de la Seine, en fait, c'est de défendre le bassin versant. On voit ces projets et en fait on peut tirer un peu un fil, une histoire par rapport à tous ces projets pour massifier les flux, parce que c'est le but en fait, et pour concurrencer les ports de Rotterdam, les ports d'Anvers, qu'est-ce qu'on veut faire? Et ben on va agrandir la Seine. Donc c'est le cas par exemple à la Bassée, pour faire passer des méga péniches, 284 mètres de long. Et cette péniche-là, il faut qu'elle passe partout sur la Seine. Donc quand c'est le cas du CNSE, bah, pour faire des grands canals. Canal Seine Europe. Il faut faire passer des grosses péniches sur ces grands canaux, et puis ensuite il faut stocker potentiellement ces flux, ces colis, ces graines, ces céréales, ce malt dans des grands entrepôts pour soit en fait se mettre dans la dynamique, on va dire, logistique, donc de corridors, et donc massifier les flux et les faire repartir loin, ou soit dans une dynamique plutôt, on va dire, fluctuation des prix du malt. Mais en fait, tout l'idée derrière, c'est le capitalisme. Et on voit que ces luttes-là, elles sont fédérées là-dessus. Et pour ce qui est du Tramont de Gonesse, qui est aussi une lutte donc, qui défend les terres de Gonesse, qui sont des terres, en fait, les plus, en fait, on parle des terres les plus fertiles de l'Île-de-France. Ces terres-là, en fait, elles ont été en fait attaquées par le Grand Paris Express, mais elles sont aussi approchées par des projets d'entrepôt logistique aussi. Et pourquoi? Bah, on sait parce que quand les bateaux en fait déchargent les marchandises, bah, faut des camions pour les récupérer, pour les transporter, etc. Donc même si on fait du fluvial, on aura toujours du camion. Donc massifier les flux, ça va forcément induire plus de camions. Voilà.
Et ces soulèvements de la Seine, c'est impulsé par les soulèvements de la Terre, notamment la coordination Île-de-France des soulèvements de la Terre, et plus largement tous les comités du bassin versant de la Seine, donc l'Île-de-France, mais au-delà.
Il y a aussi XR qui est dedans.
Les naturalistes des terres.
Ça, je trouve que c'est déjà une question sur les imaginaires, sur comment est-ce qu'on s'organise sur un bassin versant. C'est assez grand comme territoire. Qu'est-ce que ça représente comme travail militant et finalement, ça préfigure aussi des choses de la société qu'on voudrait, quoi, de plus tard. De solidarité, de soins, tu l'as dit tout à l'heure.
Pour moi, c'est l'un des principaux boulots militants dans le travail de coalition, c'est savoir s'écouter et connaître nos différences. En fait, quand on parle avec des syndicalistes, quand on parle avec des naturalistes ou avec, pourquoi pas, des chasseurs, on est quand même sur des mondes très différents et des manières de faire très différentes. Donc c'est déjà connaître nos temporalités, connaître nos manières de décider, et puis aussi être au clair sur nos lignes rouges. Bon, bosser avec les chasseurs, c'est pas forcément complètement évident, et en même temps, à certains moments, il peut y avoir des convergences sur des luttes. Donc voilà, c'était un boulot très fin d'écoute, d'empathie, et aussi de clarté sur jusqu'où on est OK d'aller ensemble.
Tu peux rebondir, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, en fait, la création de ces alliances, mais avant de parler d'alliance, on peut parler de composition, juste. C'est-à-dire, tu as parlé de chasseurs, il y a plein d'exemples de projets où on a des naturalistes, des écologistes et des chasseurs qui sont réunis ensemble contre des projets photovoltaïques. Là, ce n'était pas une alliance sur le long terme, c'est juste de la composition. Ça veut dire qu'à un temps donné, bah, on va se questionner, il faut mobiliser de la masse, et c'est ça qui marche. Et pour mobiliser de la masse, et bah, il faut créer ces alliances-là. Et donc, à certains endroits, elles sont plus avancées que d'autres, mais c'est vraiment le nerf de la guerre, pour moi, les alliances à créer.
Un des autres imaginaires sur lesquels travaillent les soulèvements de la Seine, c'est notre rapport justement à ce fleuve, la Seine. Bah, dimanche dernier, il y a eu une balade naturaliste contre Green Dock. Qu'est-ce qu'on y a appris?
On y a appris pas mal de choses. Donc, on y a appris notamment qu'il y avait des grands cormorans qui dormaient en fait sur cette île Saint-Denis, qui est en fait, comme j'ai déjà dit, vraiment l'un des plus grands dortoirs pour les grands cormorans d'Île-de-France. Il y a aussi des martins pêcheurs, il y a des amphibiens, il y a des reptiles qui sont menacés notamment par, si je cite l'autorité environnementale, par l'ombre projetée en fait de ce gros entrepôt qui pourrait gêner à la fois cette faune mais aussi les riverains d'Épinay sur Seine au solstice d'hiver.
Rappelle-nous quelle taille ça fait.
C'est 35 mètres.
Oui, donc l'ombre est gigantesque.
C'est ça. 35 mètres. Par endroit, ce sera à 4 mètres de la Seine. Donc vraiment, selon l'étude, à partir du 21 décembre à midi, vraiment, le dortoir des cormorans, il sera à l'ombre pendant une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de ronde. Et pour les riverains des Pyrénées-sur-Seine, donc c'est de l'autre côté de l'île Saint-Denis, ils seront même, eux, dans l'ombre pendant une certaine période. Donc en fait, c'est pas green, c'est pas dog. Enfin, bref, et pour les... Du coup, tu me parlais des imaginaires, parce que j'ai un peu bifurqué. Cette balade naturaliste, du coup, elle a eu lieu à Villeneuve-la-Garenne. Donc, l'objectif, c'était vraiment se balader à vélo, à pied et aussi en kayak le long des berges de la Seine pour vraiment prendre conscience de cette nature qui peut être saccagée, détruite par ce genre de projet. Donc, il y avait des naturalistes des terres, parce qu'on a une alliance récente, enfin, ça fait longtemps qu'on est avec eux, mais ils ont rejoint la coalition il n'y a pas très longtemps. Et en fait, cette balade, c'était vraiment à viser à prendre la nature qui est près de nous, et la visée symbolique, c'était aussi d'aller jeter des graines sur le site de Green Dock, juste pour montrer en fait que ce site-là, c'est une friche depuis un certain temps, et que la nature, elle a repris ses droits. Et donc, on a jeté des graines de chardon, de moutarde, qui sont en fait des espèces fondamentales, qui peuvent pousser un peu partout, et c'était juste symbolique pour dire que cette terre-là, en fait, bah, le projet prend du retard, alors qu'on pourrait les utiliser pour faire de la logistique, de l'approvisionnement, mais pour des banques alimentaires, par exemple. C'est un exemple, on en parlera plus tard pour le contre-projet, mais... Et voilà, c'était vraiment rendre hommage à la nature et mettre en avant la renaturation du site.
Et moi, j'ai participé à l'un des cortèges naturalistes. On était à pied et j'avais envie de partager l'une des plantes qu'on a appris à reconnaître. C'était la renouée du Japon. Et la renouée du Japon, alors elle est très belle, hein, c'est vraiment une belle plante, mais qui est considérée comme une exotique envahissante. Et en fait, aujourd'hui, elle fait peur à tout le monde. Tous les gestionnaires d'espaces verts, ils sont paniqués par la renouée du Japon. Et là, les naturalistes des terres, en fait, ils nous ont expliqué que c'est une plante qui, en effet, pousse assez vigoureusement, mais la plupart du temps dans des zones qui sont très polluées, où les autres plantes ont du mal à pousser parce que les sols sont déstructurés, pollués. Et du coup, en fait, si on change notre regard, en fait, c'est une plante qui reprend les droits du végétal dans des endroits où on a chassé le végétal. Et donc, elle va renaturer, elle va resolidifier les berges, qu'elle va vraiment remettre de la vie dans des endroits qui ont été artificialisés, détruits. Voilà, donc on est sorti de la balade, on adorait la renouée du Japon.
Bien sûr. Sur le 13, c'est prévu pour le canal Seine-Nord Europe aussi, il y a eu une balade naturaliste. Vous pouvez nous en parler ?
Oui, donc nous, à notre fête de l'eau mi-mai, on a fait une balade naturaliste et donc on est allé sur les étangs de Plessis-Brion qui sont pas loin de là où a lieu le chantier en ce moment. Et donc c'est une zone, pour le coup, de compensation. Donc c'est là que se fait tout le greenwashing de la société du canal Seine-Nord Europe à coup de panneaux et de nichoirs proposés aux habitants pour faire venir les oiseaux. Ils ont mis, déjà c'est des étangs très, très beaux avec plein d'espèces qu'on a pu observer et c'était vraiment incroyable de pouvoir les observer. À certains endroits, il y a la zone de compensation qu'on a pu voir avec leurs panneaux, avec regardez, on a planté des arbres, et ou mis des barrières pour protéger la faune et la flore. Mais en fait, on se rend compte que les animaux, enfin que la barrière est totalement détruite, que ça protège pas du tout les animaux. Enfin, donc voilà, c'était à la fois pour voir ça et aussi pour voir, en se décalant un peu plus, où va passer le chantier du canal, parce que là, il est un peu plus haut pour l'instant. Mais en fait, le chantier du canal traverse l'Oise. Et donc, il y a un endroit où il y a l'Oise qui file. Et en plein milieu, un énorme méga-canal qui va être créé. Et c'était un peu c'était carrément aberrant de voir l'ampleur. Et aujourd'hui, on ne peut même pas s'imaginer à quoi ça va ressembler, tellement c'est immense. Et donc, ils ont prévu de reboucher la rivière de l'Oise. Donc, c'est une rivière énorme, très riche en biodiversité, comme la Bassée, des endroits qui sont hyper précieux et très riches. Et ça fait écho aussi à d'autres choses. Une autre rivière, la rivière de la Vieille Oise, qui pour la compensation, donc pour compenser les dégâts du projet, a été rebouchée aussi pour faire des zones humides de compensation. Donc pareil, c'était aberrant. Donc voilà, on a pu observer tout ça. Donc à la fois l'énormité du projet, les zones de compensation, et toujours en lien avec l'Oise, ils sont en train de détourner le lit de l'Oise complètement, d'abord tout déforesté, et aujourd'hui ils sont en train de la mettre autre part, la décaler, pour pouvoir faire passer leur méga canal. Donc c'est vraiment un rapport à la nature qui est enfin qui est aberrant quoi, de dire on en fait ce qu'on veut, on détruit tout et on plante des arbres. D'ailleurs, ça va détruire d'autres zones, mais on fait semblant de planter des arbres et comme ça la population elle est ok. Et
voilà. J'ai l'impression que les balades naturalistes, c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans les luttes, quoi. On en voit partout. Pourquoi est-ce qu'elles sont si importantes et pourquoi elles sont devenues un outil de mobilisation centrale pour les luttes locales ?
Peut-être je vais repartir du dernier livre d'Alessandro Pignocchi qui s'appelle « Perspective terrestre ». Et en fait, il le dit très très bien. Il dit que la meilleure manière de lutter pour un milieu de vie, pour un territoire, c'est en fait de se relier affectivement à ce milieu de vie et à tous les vivants qui y vivent. Il lui dit, bah, plutôt qu'un grand soir ou plutôt que de l'éco-réformisme, il faut se relier effectivement à ces milieux de vie. Et c'est ça qui va nous donner envie d'aller les défendre, c'est ça qui va nous donner envie d'aller créer du collectif localement et expérimenter des nouvelles manières de vivre, etc. etc. Bon, il le dit beaucoup mieux que moi, mais c'est à peu près l'idée. Et c'est vrai que, si je prends la Bassée comme exemple, savoir qu'en fait, il y a des oiseaux migrateurs pour qui la Bassée est fondamentale, parce que sur les milliers de kilomètres qu'ils parcourent, quand ils arrivent enfin aux zones humides et aux étangs de la Bassée, c'est leur pause. Ils vont y rester quelques mois, ils vont nidifier, faire des petits puis repartir. Quand on sait qu'il y a des plantes qui adorent être temporairement les racines dans l'eau et puis temporairement un peu plus au sec, et qu'elles ont des vertus médicinales hyper utiles pour les humains, mais aussi pour les mammifères qui vont s'en nourrir. En fait, quand on connaît les manières de vivre de toute cette foultitude de vie, en fait, ça rend le territoire hyper important et on a envie de se battre pour. Voilà. Et donc, ces balades naturalistes, je trouve que c'est vraiment génial parce que ça donne à connaître justement tous ces petits vivants qui nous entourent, comment on y est relié, comment ils nous sont nécessaires et comment on est tous nécessaires les uns aux autres. Et puis, ça permet aussi de développer une approche très sensible au territoire. On y marche, on l'arpente, on le regarde, on le sent, on l'écoute, on le touche. Et en fait, ça nous enracine encore plus, quoi. Ça fait du bien.
Et pour compléter, je pense que tout l'intérêt, c'est d'aller sur le terrain et c'est vrai qu'on peut se resensibiliser, mais aussi on peut voir un peu d'autres communautés humaines que au quotidien on ne voit pas. Je prends l'exemple du Plessis-Brion. Ce qui est intéressant, c'est que ça se trouve à même pas 200 mètres de la petite ville qui s'appelle Longueuil-Annel. Longueuil-Annel, c'est un petit village qui est traversé par le canal du Nord. Donc je disais tout à l'heure qu'on pouvait déjà prendre la péniche depuis Paris pour aller à Anvers. Et en fait, ça passe par le canal du Nord. Donc le canal du Nord, c'est la toute petite version du canal Seine-Nord. C'est un canal qui a 60 ans. Et en fait, qui a façonné les Hauts-de-France, notamment la partie de l'Oise. Et Longueuil-Annel, quand on passe par ce petit village, ou cette même ville, je crois, pour aller aux étangs du Plessis-Brion, on se rend compte qu'elle a été, par le canal du Nord, structurée d'un point de vue architectural. Et en fait, il y a un musée de la batellerie. Et on reconnecte aussi avec cette histoire de la région, du pays, qui est une histoire batelière, où il y a des gens, surtout dans les années 70, c'était l'âge d'or de la batellerie. Et en fait, il y avait toute la communauté batelière, donc c'était 8000 personnes au début des années 70, qui vivaient et qui faisaient vivre ces territoires-là. Et en allant participer à des balades naturalistes, on peut aussi revoir et prêter plus attention à des gens qu'on a complètement oubliés. Et aujourd'hui, on fait un canal Seine-Nord-Europe, on l'a dit, pour faire passer des grandes péniches, pour soi-disant diminuer le trafic de camions. Mais en fait, on va le faire alors qu'il n'y a même plus de bateliers. Parce que les bateliers, comme les agriculteurs, c'est une profession qu'on a complètement tuée par un ensemble de procédés. On n'aura pas le temps de revenir, mais c'est un peu des gens qui sont laissés pour compte. Et aujourd'hui, on va avoir un canal où on n'a même plus assez de bateliers pour conduire les péniches qui vont soi-disant passer. Donc je pense que c'est aussi l'avantage d'aller sur le terrain, c'est de prêter attention à l'ensemble du vivant, mais pas que le non-humain, même si c'est hyper important de décaler son regard. Mais c'est aussi quitter un peu la ville aussi.
Et puis voir l'histoire des lieux, enfin, ça c'est hyper intéressant dans ce que tu dis, je trouve, de voir les pratiques ancestrales, celles qu'on a oubliées, etc. Je vous renvoie au premier épisode du coup de ce triptyque qui s'appelle « Mettre les eaux en partage ». J'avais une question sur Stop Green Doc. Vous avez carrément créé un contre-projet au plan d'aménagement logistique de Goodman. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Je pense qu'à l'image de ce qui a été fait, par exemple, pour lutter contre la 69, on a des riverains, des syndicats et des écologistes, des mouvements écologistes qui sont réunis et qui se sont dit est-ce qu'une manière en fait de lutter contre ce projet d'entrepôt, ce serait pas de penser à un contre-projet ? Donc j'ai cité par exemple la 69 parce que je ne sais pas si vous savez, mais à la 69, vraiment ce qui a aidé, c'est qu'il y a vraiment un tissu anti-associatif et d'urbanistes, d'ingénieurs, mais de riverains, de naturalistes des terres qui ont pensé une autre voie, donc par la voie est libre, ce collectif. Donc c'est un projet pour montrer qu'on pouvait rentabiliser ce qui se fait déjà sur la nationale. et ben on essaie de faire ça un peu à Green Dock pour montrer que pour répondre en fait à cet argument qu'on a besoin de cette logistique de masse qui se base sur la sous-traitance, nous au contraire, on veut répondre que si on veut s'ancrer dans le territoire, qu'on veut intégrer les populations locales, qu'on veut respecter les espèces, ce dont on a besoin, c'est de la logistique qu'on appelle d'approvisionnement. Et donc le collectif du coup, enfin, Pleine Tempête, les riverains et les syndicats se réunissent à peu près, je pense, toutes les deux semaines, entre deux semaines et un mois, et ils réfléchissent vraiment à des pistes pour penser vraiment cette zone. Donc quand je dis la zone, c'est le port de Gennevilliers, parce que penser juste l'entrepôt, enfin la zone de l'entrepôt du Green Dock sans le reste, ça n'a pas trop de sens. Et donc il y a quatre pistes dans ce contre-projet qui ont été réfléchies vraiment pour le territoire, pour les travailleurs, pour Gennevilliers, l'île Saint-Denis et Saint-Denis. La première, c'est la mise en place d'une charte des activités logistiques du port de Gennevilliers. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup de sous-traitances qui sont prévues, il y a des gros du BTP qui sont là dans le port de Gennevilliers. Concrètement, c'est, comme je l'ai dit, ce n'est pas les travailleurs et les travailleuses du coin qui bossent ici. Il y a aussi beaucoup d'intérim. On ne respecte pas les normes de santé pour les travailleurs. C'est des emplois terribles parce qu'en plus de ça, il n'y a pas de mise en place de poids maximal pour les charges. Donc ça, c'est des choses qu'on aimerait mettre en place. Deuxièmement, il y a une partie plus de manière générale sur la transformation des activités du port. Donc on essaie de réfléchir à la question, de répondre à la question, quelle logistique et pourquoi ? Donc comme je l'ai dit, là, on irait plus vers une logistique de l'approvisionnement. C'est-à-dire, au lieu de penser le stock par les flux logistiques, c'est-à-dire maximiser, là, on penserait plus sur un vrai stock physique, c'est-à-dire stocker pour approvisionner localement notre population. Donc avec la mise en place de banques alimentaires, ça peut être aussi repenser à la gouvernance, c'est-à-dire mettre en place des choses beaucoup plus collectives, c'est-à-dire une gouvernance par et pour les travailleurs. Ensuite, il y a aussi la relance du fret ferroviaire. Comme je l'ai dit, Green Dock et du routier. Il y a 7,5% du trafic qui sera fait par la voie fluviale. Enfin, avant ce projet d'entrepôt, il y avait quand même une voie ferroviaire qui passait. Elle n'a pas été rentabilisée, enfin, elle n'a pas été utilisée. C'est bête, le fret ferroviaire, c'est hyper important. Il faut le maximiser, je veux dire, c'est mieux que le fluvial à certains égards parce qu'on fait moins venir de camions que lorsqu'on doit décharger ces péniches-là. Et la dernière chose, c'est aussi la re-écologisation du site de Green Dock. Comme je l'ai dit, l'entrepôt, il menace les berges, il menace la zone Natura 2000, il menace les riverains de par s'être projetés. Et donc, c'est vraiment de réfléchir au sein de ce contre-projet à comment maximiser la vie qui existe déjà sur ces berges et sur cette île Saint-Denis. Voilà, c'est quelques pistes pour le contre-projet. Mais c'est vraiment c'est récent.
C'est des très belles pistes. Merci. À la Bassée, alors une partie du tracé de la Seine dans la Bassée est quand même déjà fortement anthropisée. Et rien que, je crois que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, il y a des digues qui étaient censées protéger les habitants des crues de la Seine qui ont montré des faiblesses. Et elles vont être rectifiées à grand renfort d'argent public. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à sortir de l'imaginaire de contrôle et d'endiguement de nos cours d'eau ?
Oui, ça c'est une vraie grande question. Alors peut-être je vais expliquer un petit peu ce que sont que ces digues. Localement, on les appelle les casiers. Pourquoi ces casiers ? Parce que, je vous disais tout à l'heure, la Bassée, c'est juste avant la confluence entre la Seine et Lyon. Et dans les épisodes de crue, quand il pleut énormément, en fait cet endroit-là, il est particulièrement critique parce que ces deux fleuves et rivières ont tendance à avoir leurs ondes de crue synchronisées. C'est-à-dire que, imaginez-vous à Paris, ici, vous avez une grosse onde de crue qui arrive de la Seine, vous en avez une autre grosse qui arrive par Lyon, et en fait, elles se rencontrent, elles se tamponnent, et donc ça fait une méga onde de crue. Donc il y a un enjeu important, quand on sait que les eaux vont monter, à désynchroniser ces ondes de crue. C'est le rôle des casiers. Ces casiers, ce sont en fait des très grandes digues qui créent en fait, comme des bassines dans lesquelles on va pomper l'eau de la Seine, mais c'est des milliers, des millions de litres d'eau, dans le but de faire passer l'onde de crue de Lyon. Une fois qu'elle est passée, on va relarguer l'eau qui a été stockée dans les casiers et l'onde de crue de la Seine pourra partir. Du coup, pour Laval, la Seine-et-Marne, Paris et plus loin, ça permet de ralentir le moment où ça va vraiment devenir catastrophique. Il y en a un casier qui a été construit, qui a été testé il n'y a pas très longtemps, et en effet, il s'avère qu'il fuit. Ce n'est pas une trop bonne nouvelle. Et l'idée, c'était de voir si c'était faisable et intéressant d'en construire 9 autres. Dans l'idée, on peut se dire, bon, bah, c'est pas idiot de vouloir protéger Laval et toutes les zones extrêmement denses en population. Mais ça pose quand même des questions compliquées. Ça pose la question de pourquoi infliger ça à la Bassée ? C'est quand même un nombre d'hectares considérables qui sont du coup emprisonnés dans ces grandes digues. C'est des terres emprisonnées et c'est des terres où on dit en fait, vous ne pouvez pas y faire grand-chose parce que de temps en temps, on va les mettre sous l'eau. Ouais. c'est pas génial non plus pour les animaux qui y habitent, parce que bon, bah, régulièrement, ils ont le temps de se sauver, nous dit-on, mais bon, c'est quand même pas très agréable. Alors voilà, donc ta question c'est, ces casiers, c'est toujours maîtriser, dompter, stocker l'eau, pourquoi on ne la laisse pas faire un peu ce qu'elle veut ? D'autant plus que dans une zone humide, bah, justement, elle sert à ça, cette zone humide, elle sert à voilà, laisser l'eau s'étendre, s'épandre et se faire tampon. Moi je pense qu'il y a deux choses. Déjà, on connaît très peu, peut-être qu'on a oublié, comment fonctionnent les cycles de l'eau. Quand on s'est replongé au sein du collectif Bassée Vivante dans l'hydrobiologie, on s'est dit ouais, mais en fait c'est hyper intéressant de savoir que bah, l'eau, plus une rivière est profonde et large, bah, plus elle va filer, moins elle va s'infiltrer. Qu'une rivière, en fait, elle communique énormément avec les nappes phréatiques tout autour, et que finalement, on pourrait dire que c'est une seule et même eau qui circule entre les nappes et les fleuves, les rivières. Normalement, une rivière, elle a plusieurs bras. C'est pas juste un truc tout droit, et que ben, en fonction des saisons, en fonction de la météo, en fonction de plein de choses, eh ben, l'eau elle va prendre un bras ou un autre, elle va méandrer entre ces différents bras. Et je trouve que se réapproprier ce savoir hydrobiologique, en fait, c'est un côté très libérateur de se dire, mais, oh, en fait, l'eau elle a pas besoin d'être corsetée naturellement, elle circule un peu partout et ça va filtrer l'eau, ça va améliorer sa qualité. Il y a des vies très différentes qui vivent dans différentes vitesses d'eau. Il y a des espèces de poissons qui aiment les eaux très vives, donc dans la Seine ils se trouvent bien. Et puis il y a des poissons qui aiment l'eau lente. Il y a des poissons qui aiment les deux parce qu'ils vont aller se reproduire dans les eaux lentes et puis ils vont vivre dans les eaux plus rapides. Et donc ce savoir-là, ou cet imaginaire-là, on pourrait dire, c'est vraiment hyper chouette et je trouve que ça permet d'aller ensuite imaginer de l'eau plus libre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est parce que je pense qu'on a, en fait, on habite de plus en plus sur les territoires de l'eau. Donc on artificialise énormément, donc on habite dans les zones humides qu'on a du coup drainées, irriguées, etc. Et aussi parce qu'on exploite ces zones-là, ce sont des zones qui sont extrêmement précieuses, notamment pour tout ce qui est granulé, qui va servir à faire du béton. Et la bassée, c'est aussi des zones où on a tellement creusé des carrières, et l'eau des nappes phréatiques a ressurgi. Et il y a 10% de la surface de la bassée qui est maintenant des immenses étangs, des anciennes carrières qui sont sous l'eau. Et donc, voilà, comment on va pouvoir se débarrasser de cet imaginaire sacré chantier ?
Eh bien, je pense qu'il y a peut-être un début de réponse du côté de Méga Canal Non Merci. Enfin, je ne sais pas, on verra. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur les savoirs et sur les... Parce que toutes ces choses-là, de canaliser, de rendre tout droit des rivières, de créer des bassins, tout ça, c'est fait par des ingénieurs. Et donc, vous, le 19 mai dernier, vous avez été à l'Université technologique de Compiègne, où ont été discutées des alternatives au Méga Canal. Ben, vous pouvez nous raconter, peut-être ?
Oui, bien sûr. Du coup, on a appelé ça une assemblée citoyenne autour des alternatives contre le projet du canal Seine Europe. Et c'est intéressant de le faire à l'UTC parce que, bah, du coup, il y a une forte mobilisation aussi au sein de l'UTC. Et la société du canal Seine Europe a un partenariat avec l'école d'ingénieurs de l'UTC. Donc symboliquement, c'était fort déjà de pouvoir le faire là-bas et de montrer une résistance dans ce lieu-là. Et aussi parce que bah, c'est un lieu où sont formés les ingénieurs qui vont faire ce genre de projet. Et très concrètement, nous, on a des ingénieurs dans l'école qui partent en stage à la Société du Canal Seine Europe. Donc ça existe. Et c'était ce qu'on peut nous apprendre là-bas. Et donc c'était important dans ce sens-là de pouvoir montrer qu'il y a une résistance, à la fois auprès des élèves, mais aussi auprès des professeurs et des enseignants-chercheurs. Puisqu'il y a des projets pédagogiques qui sont menés pour créer une contre-expertise sur le sujet du canal Seine Europe via ce qu'on a appelé le canal alternatif, qui a vocation dans un futur ensuite à donner une alternative à ce projet-là. On en est encore aux prémices. Et donc qui a permis du coup de créer une sorte d'expertise à la fois économique, en histoire des techniques, en histoire des sciences, sur le projet et en histoire du travail avec notamment le monde de la batellerie. Et donc, on a pu aussi développer les alternatives avec plein d'acteurs différents. Il y avait notamment quelqu'un qui parlait, un militant de Green Doc, mais aussi Julien Leguet, et aussi des historiens qui aussi ramenaient leur discours, qui parlaient de l'autorisation environnementale, etc. Et c'était hyper intéressant d'avoir tous ces points de vue très différents pour comprendre et avoir diverses perspectives d'une alternative, et puis suivi d'un temps d'échange avec tous les gens qui luttent contre ce projet et qui est intéressé. Et donc, il y a amené plein de belles idées qui sont à développer et qui se font bien sûr parmi elles. On peut dire faire des alliances, trouver un projet qui fasse sens par et pour les habitants du territoire, en lien avec potentiellement la batellerie artisanale, les agriculteurs, enfin pour une agriculture paysanne et vivrière, avec un fret de transport qui mélange, le fluvial, parce qu'on n'est pas contre le fluvial, mais un fluvial raisonné, et le fret ferroviaire, et avoir une vraie alliance entre ces deux modes de fret.
Ouais, c'est ça, c'est l'idée aussi, je pense, de partir du déjà-là. En fait, quand vous allez dans les Hauts-de-France, il y a déjà un réseau de canaux qui est là, qui n'est pas utilisé du tout, parce que soit il a été complètement délaissé. Par exemple, l'été, c'est rempli d'algues à tel point que sur certains axes, la péniche ne peut même pas passer. C'est aussi poser la question du travail. On l'a dit, il va y avoir des entrepôts logistiques. Est-ce qu'on veut, comme le veut Xavier Bertrand, faire des Hauts-de-France un hub logistique? C'est peut-être pas une perspective très enrichissante. Et surtout, partir aussi de, il y a des canaux, il y a du réseau ferroviaire qui n'est pas utilisé, mais par contre, il n'y a plus de bateliers, il n'y a plus de cheminots. Donc comment on fait pour revaloriser notamment la batellerie qui est vraiment en situation vraiment de soins palliatifs, pour reprendre les propos d'un batelier? Comment on refait pour que les jeunes aient envie de devenir batelier et les moyens matériels? Parce qu'aujourd'hui, acheter une péniche, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est passer par des diplômes, alors qu'avant, il fallait simplement savoir conduire la péniche. Maintenant, il faut 2 ans d'études, il faut 400 jours de formation sur un bateau. On a complexifié un métier, on l'a rendu vraiment très dur à travailler, 70 heures de travail par semaine, le métier de batelier, parce qu'il faut rester sur le bateau, donc la vie de famille, on y pense moyen. Donc c'est partir de l'existant, partir avec les travailleurs, pour eux, parce que dans les Hauts-de-France particulièrement, forcément c'est très dur de dire on est contre un projet qui va pendant quelques années, certes, mais quand même pendant quelques années, donner du travail à quelques milliers de personnes. Les gens, quand vous dites que vous êtes opposé à ce projet-là, vous passez un peu pour le bobo écolo qui ennuie tout le monde. Donc on ne peut pas dire non, on est contre ça, il faut qu'on ait un contre-projet, donc il est en train de se développer. Il faut parler aussi de comment on se nourrit. On l'a dit, la sécurité sociale de l'alimentation, c'est un projet évidemment qui nous intéresse tout particulièrement dans un endroit qui est touché par la précarité alimentaire très fortement. Et donc il faut composer avec tous les acteurs, et ça part évidemment du territoire. Il ne s'agit pas de dire c'est les petits étudiants et étudiantes de l'école d'ingénieurs qui, par leur brillance et leur intelligence, vont nous sortir un projet. Non, ça se fait avec les gens, par les gens. Il n'y a que les gens qui connaissent mieux le territoire que des étudiants, quoi.
Et merci pour ce mot de la fin. Ça, c'est la grande force des luttes locales. C'est vraiment d'ancrer des perspectives post-capitalistes dans les territoires. Et c'est hyper fort. Et bravo à vous. Et merci d'avoir été là ce soir. Et merci à notre public. Applaudissements.